Faut-il perdre sa vie pour sauver sa vie? Quelle vie? Dans toute la Bible, il est fait référence à la vie de Dieu, sauver sa vie, perdre sa vie, la vie éternelle, la vie impérissable, la vie sans fin, l'arbre de vie, etc. Cela peut être assez déroutant si l'on ne comprend pas le message fondamental concernant la vie. La perte, par l'homme, de la vie de Dieu. Les problèmes de l'homme ont commencé avec Adam et Ève dans le jardin, lorsqu'ils ont cédé à la tentation du serpent, Satan, de désobéir à Dieu et de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait dit, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement, Genèse 16-17, et ce jour-là, ils sont bel et bien morts, non pas de la mort physique que nous connaissons, mais d'une mort spirituelle, ils sont morts à la vie de Dieu. Ils furent aussi chassés du paradis vers le pays des bêtes, la terre, et il leur fut interdit de manger de l'arbre de vie, qui leur donnait la vie éternelle. » Dans son ouvrage « No Cross, No Crown », William Penn, qui demeurait dans le royaume de Dieu, décrit l'ampleur de la perte de statut de l'homme, que toutes les religions ignorent. Cela le chassa du paradis, et au lieu d'être seigneur du monde entier, Adam devient le plus misérable vagabond de la terre. Quel étrange changement! Au lieu de devenir comme des dieux, ils tombèrent au-dessous même des bêtes, en comparaison desquelles Dieu les avait pourtant faits comme des dieux. La conséquence lamentable de cette grande défection a été un échange de l'innocence contre la culpabilité et d'un paradis contre un désert. Mais ce qui est pire encore, dans cet état Adam et Ève s'étaient donné un autre Dieu que l'unique Dieu vrai et vivant, et celui qui les avait entraînés dans tout ce malheur leur procura une vaine connaissance et une sagesse destructrice, l'art des mensonges et des équivoques, des subterfuges, des échappatoires et des excuses. Ils avaient perdu leur simplicité et leur sincérité, et d'un cœur droit, l'image selon laquelle Dieu avait fait l'homme, l'homme devint un serpent tortueux, sinueux, se contorsionnant. L'image de cet esprit injuste du serpent, à dont il céda aux tentations, livrant par son obéissance son paradis de bonheur. Et cela ne se limite pas à Adam, car tous ceux qui ont manqué à la gloire de Dieu naissent fils de sa désobéissance. La vie de Dieu consistait à être en communion avec lui, en sa présence, dans la lumière céleste, au paradis animé par Dieu, dirigé par Dieu. Ils ont tout perdu. La vie que nous avons dans ce monde physique, la terre, où Adam et Ève furent bannis, est une mort. Nous sommes morts, comme Jésus l'a dit à un disciple potentiel qui s'excusait de le suivre afin d'aller ensevelir son père, « Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Matthieu 8, 22. De toute évidence, des morts ne peuvent pas en ensevelir d'autres. Ainsi, les morts sont ceux qui sont morts à la vie de Dieu, ne suivant pas la lumière de la vie de Dieu, Jésus, la lumière qui éclaire tout homme. Maintenant tous les hommes sont dans les ténèbres, puisqu'ils sont en Adam dans la transgression, et morts à l'image de justice et de sainteté dans laquelle l'homme fut d'abord créé. La promesse de Dieu de ramener les hommes de bonne volonté à la vie de Dieu. Mais Dieu a promis de ramener l'homme à lui, et de ramener l'homme à un état de la vie de Dieu qui ne pourrait plus jamais succomber à la tentation. Et je mettrai inimitié entre toi serpent et la femme, et entre ta postérité et sa postérité. Une postérité ultérieure, descendant de la femme t'écrasera la tête, à une génération ultérieure de la postérité du serpent. Et toi serpent tu lui blesseras à la postérité de la femme le talon. Genèse 3:15 La postérité de la femme, c'est Jésus-Christ, né d'une femme, la postérité d'Ève. La postérité du serpent, c'est l'esprit égoïste en vous, la nature pécheresse, l'esprit charnel. La postérité de la femme, Christ, fut durement meurtrie par la postérité du serpent lorsqu'il goûta la mort pour tous les hommes. À ces hommes qui cherchent avec persévérance la justice de Dieu, Jésus apparaît pour apporter leur salut, tandis que la tête du serpent est écrasée par Christ en eux, afin de briser sa puissance et sa force, et de le détruire, lui et ses œuvres, en chaque homme. Et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Hommes 16-20 Le plan expliqué en repartant du commencement, ce qui suit décrit comment le merveilleux plan de Dieu s'est accompli en ramenant des hommes de bonne volonté dans la plénitude de la vie de Dieu, eux qui ne peuvent plus jamais retomber dans le péché. Qui, par des œuvres dirigées et rendues possibles par lui, manifeste la puissance et l'amour de Dieu à tous les peuples de la terre, et qui, ayant échappé à la corruption du monde et à ses convoitises, reçoivent une confiance totale comme des fils pour partager la nature divine. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Christ est la parole de Dieu, son nom est la parole de Dieu. L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voix. J'ai été établi depuis l'éternité dès le commencement. Alors j'étais auprès de lui, comme un enfant élevé avec lui, et je faisais chaque jour ses délices, me réjouissant sans cesse devant lui. Pro 8, 20-30 La Bible n'est pas la parole, la Bible est les Écritures. Voyez à quel point ce verset devient ridicule si vous supposez que la parole de Dieu est la Bible. Au commencement était la parole la Bible, et la parole la Bible était avec Dieu, et la parole la Bible était Dieu. Jean 1:1 « Elle était au commencement avec Dieu ». La parole, qui demeurait avec Dieu au commencement, est sortie pour devenir Jésus, le premier-né dans la dimension de la nouvelle création. « Je suis sorti du Père, je suis venu de la part du Père. » Jean 16, 27-28 « Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Lui est Jésus. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Jean 1, 1-4 « La parole, qui est Jésus, est la vie de Dieu et la lumière des hommes. La vie de Dieu a été perdue pour tous les hommes lorsque Adam a désobéi à Dieu et est tombé. Avoir la vie de Dieu, c'est être restauré à la justice et à la sainteté de l'image de Dieu. Christ, vous vivez en Christ, Christ vit en vous, contrôlant toutes vos paroles et vos actes, et cette vie est alors éternelle. La vie éternelle, c'est être une nouvelle créature en Christ sur la terre et pour toujours. Ainsi Jésus, le Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qu'ils contiennent, qui est la représentation visible du Dieu invisible, est la vie de Dieu. Comme il le dit encore, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, « Si je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11, 25, beaucoup de gens pensent que cela signifie que Jésus est le moyen de vivre éternellement, mais tout le monde vit éternellement sous une forme de vie, même les gens en enfer sont vivants. Ainsi, lorsque Jésus dit vivre pour toujours, il parle de vivre dans la vie de Dieu, qui est éternelle parce que la vie de Dieu est éternelle, sans commencement ni fin. Vivre dans la vie de Dieu est de loin supérieur à la manière dont nous vivons aujourd'hui, c'est être en communion avec lui, en sa présence, dans la lumière céleste, au paradis animé par Dieu, dirigé par Dieu. Avoir la vie de Dieu, c'est être restauré dans l'image de Dieu en vraie justice et sainteté. Comme Jésus l'a dit, « Je suis venu afin que vous ayez la vie, et que vous l'ayez en abondance dans une forme supérieure. » Jean 10 dit de toute évidence, « Jésus n'est pas venu pour nous donner la vie telle que nous la connaissons, puisque nous avons déjà la vie, nous sommes vivants. Il n'est pas venu, non plus pour que nous ayons plus d'argent, plus de possessions ou plus de choses, car il nous a dit que la vie ne consiste pas dans l'abondance des biens possédés. » Luc 12, 15, « Vouloir davantage est de la convoitise qui est de l'idolâtrie. » Il est donc venu donner une forme de vie supérieure, la vie de Dieu, et cette vie supérieure, éternelle, est à goûter pendant que nous sommes sur la terre, puis pour toujours. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde aux hommes. Jean 6, 33 De toute évidence, les hommes ont la vie telle que nous la connaissons, la vie qu'ils donnent aux hommes est une autre vie, la vie de Dieu. Je suis le pain de vie. Jean 6, 35 De toute évidence, il n'est pas le pain de la vie terrestre, ce pain-là, nous l'achetons au magasin. Il est le pain de la vie de Dieu, un pain céleste. Plus tard, nous montrerons comment ce pain se mange, et c'est ce pain dont « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » que vous avez prié mille fois. Combien cette nouvelle forme de vie que Jésus vient nous apporter est-elle supérieure? Dans son sermon, The Spirit of Christ, The Only True Guide, Stephen Crisp nous offre une magnifique comparaison de ce que sera notre vie lorsque nous aurons crucifié notre esprit égoïste afin d'être réellement gouverné par Christ. Là où il y a beaucoup d'orgueil, de malice et d'envie, l'esprit de Christ l'arrachera, et tout ce mal que l'ennemi a planté dans les hommes, il l'extirpera et introduira une justice éternelle, et plantera l'amour dans cette même âme, et l'établira et l'affermira. Un tel homme aura plus de joie, de plaisir et de délices sous le gouvernement de l'esprit de Christ en un seul jour que quiconque gouverné par l'esprit mauvais en mille jours. Les gens pensent que l'étude des Écritures est la clé pour plaire à Dieu et avoir la vie éternelle au ciel, et ils passent donc leur vie à étudier les Écritures, ligne sur ligne, précepte sur précepte, apprenant toujours mais sans jamais pouvoir parvenir à la connaissance de la vérité et sans jamais pouvoir obtenir la vie de Dieu. Comme Jésus l'a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi, afin d'avoir la vie. Jean 5, 39, 40 Les Écritures ne font que rendre témoignage à Jésus, la source de la vie de Dieu, Christ, cette vie est Jésus qui est la vie éternelle. Les Écritures ne sont pas vivantes, elles sont mortes. On n'obtient aucune vie en étudiant les Écritures, car la lettre tue mais l'esprit vivifie. 2 Cor 3, 6 La lettre, ce sont les Écritures. Seul l'esprit de Christ est vivant, et seul l'esprit peut communiquer la nouvelle vie de Dieu. La vie de Dieu, communiquée uniquement par l'esprit, doit être obtenue pendant que l'on est sur la terre, et elle est éternelle. La vie de Dieu, ce n'est pas se mettre sur son 31, chanter, prier et lire la Bible. La vie de Dieu, c'est avoir l'Esprit de Jésus-Christ qui guide chacune de vos paroles et chacun de vos actes, rendant tout ce que vous faites et dites parfaitement vertueux. La vie de Dieu, c'est être restauré dans l'image de Dieu en vraie justice et sainteté. Cette image, c'est Jésus-Christ en vous, en mesure suffisante pour être votre vrai Seigneur qui vous contrôle. Il existe chez tous les hommes une petite mesure de la vie de Dieu, qui est la lumière des hommes, mais elle est enchaînée dans les ténèbres, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, 4 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Jean 1, 5. La lumière de la parole, Christ, brille dans les ténèbres du cœur des hommes, mais les hommes ne comprennent pas que c'est Christ, résonnant avec eux avec douceur et anonymement, cherchant à les reprendre pour leur mauvaise voie, et cela parce que les hommes ne veulent pas renoncer à leur mauvaise voie, F5, 13. Si les hommes croient ce que Christ leur dit, ils croient et aiment la vérité, mais s'ils rejettent ce raisonnement, aimant leurs voies égoïstes et mauvaises, ils haïssent la vérité et la lumière qui est Christ. Pierre a dit aux croyants, « Nous avons la parole prophétique plus certaine, la parole dans votre cœur, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin Jésus se lève dans vos cœurs. » 2 Pé 1, 19. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jean 1. Si Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer le chemin de la lumière, cet homme vint comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous les hommes croient par elle la lumière, Christ. Jean 1. 7. Jean vint pour rendre témoignage à la lumière de la parole, afin que tous les hommes croient par elle la lumière, Christ. Jésus nous dit, « Croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. » Jean 12. 36. Cette lumière avait été prophétisée comme étant le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, pour les Juifs comme pour les gentils. Il ne suffit pas de croire qu'il existe une lumière, il faut croire vrai ce que la lumière vous montre, puis agir en conséquence. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Jean 1, 8. Jean n'était pas la lumière, mais il a témoigné de la lumière, Christ. C'est la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Jean 1, 9. Tous les hommes ont une petite mesure de la lumière, Christ, qui brille dans les ténèbres en eux afin d'exposer le mal dans leur cœur. Jésus est la véritable lumière qui éclaire tout homme. La lumière est en nous tous, nous devons croire que ses appels sont vrais, et croire que la lumière est le Fils de Dieu. Croyez en la lumière, afin que vous deveniez des enfants de lumière. Jean 12, 36. Dieu est lumière. 1 Jean 1, 5. Il ne suffit pas de croire qu'il existe une lumière, il faut croire vrai ce que la lumière vous montre. Bien que nous ayons cette petite mesure de la vie de Dieu, Dieu nous considère comme morts à la vie de Dieu parce qu'elle ne nous gouverne pas. Elle est enchaînée par l'esprit de ténèbres en nous. C'est pourquoi Jésus a dit, « Laisse les morts ensevelir les morts », ce qui signifie, « Laissez ceux qui sont morts à la vie de Dieu ensevelir ceux qui meurent physiquement ». Croire en Jésus, c'est croire ce qu'il vous montre et ce qu'il vous dit, et non croire à des faits historiques sur sa vie tels que, « Il est né d'une vierge, a marché sur l'eau, a été crucifié, est ressuscité des morts, etc. » Cela, c'est une foi Bible, la foi que la Bible est vraie. Dans l'Épître aux Romains, Paul nous dit que la vraie foi consiste à entendre la parole de Dieu Jésus, qui est dans votre cœur pour que vous obéissiez, c'est la parole de la foi que les apôtres prêchaient. Rome 10, 8, 17, 2, 30, 10, 14. Si vous croyez ce qu'il vous dit, ce qu'il vous commande, ce qu'il vous montre, alors vous croyez en Jésus. Il ne suffit pas de croire que Jésus est le Fils de Dieu, comme il l'a affirmé sur la terre, vous devez croire vrai ce que Jésus, le Fils de Dieu, la lumière et la parole dans votre cœur, vous montre, puis agir en conséquence. Cette petite mesure de lumière est Christ, la vie de Dieu, en chaque homme qui vient dans le monde. À un moment de la vie de chaque homme, cette lumière, Christ, l'exhorte anonymement à se détourner du mal et à faire ce qui est juste. Si l'homme accepte cet appel comme vrai, et change ensuite sa conduite selon ce qui lui est montré, alors Dieu répand sur lui davantage de son esprit, qui est la vie de Dieu. Mais si un homme ignore cet appel, comme le fait l'immense majorité, alors Dieu l'ignore aussi, et les paroles que Dieu lui a dites seront son juge lorsqu'il mourra. Jean 12, 47, 48. Dieu frappe à la porte du cœur de chaque homme. Dieu est équitable, Dieu est juste, Dieu n'a d'égard pour personne, chaque homme a son jour de visitation et est donc sans excuse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Rêve 3, 20. La porte, c'est votre cœur, le coup frappé, c'est sa douce exhortation anonyme à vous détourner du mal. Ouvrir la porte, c'est croire vrai son appel et se repentir du mal qu'il met en lumière, en changeant sa conduite en conséquence. Souper avec lui, c'est recevoir davantage de son esprit qu'il répand sur vous en réponse à votre obéissance à ses reproches. De la parole du Seigneur au-dedans, tout homme a entendu l'appel à se repentir. Christ a prêché son évangile dans le cœur de chaque homme sur la terre, tout homme est sans excuse. Si vous demeurez dans la foi fondée et affermie, et si vous ne vous détournez pas de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre, Col 1, 23, mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Oui, vraiment, leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Rome 10, 18, Psa 19, 1, 4, et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, tu dois le dominer. Gênesis 4, 6, 7 Et sachez que l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, Dieu annonça d'avance l'Évangile à Abraham en disant « En toi seront bénies toutes les nations ». Galates 3, 8 À un moment de nos premières années, Christ la Lumière dit anonymement à chacun de nous que, si nous nous détournons du mal et faisons ce qui est juste, nous ferons bien. Faire bien, c'est voir croître en nous la vie de Dieu. Dieu regarde ceux qui manifestent un intérêt sincère pour suivre la vérité, faire le bien et éviter le mal, et il sait qui est capable de le chercher de tout son cœur et de toutes ses forces. À ces hommes et femmes de bonne volonté, il donne un avant-goût de sa bonté, un avant-goût du monde à venir, une expérience spirituelle, afin de créer en eux une faim de davantage de lui. Astérisque Si vous n'avez pas encore éprouvé la faim de le chercher ardemment davantage, alors faites une promesse à Dieu, que s'il vous donne une expérience spirituelle, créant une faim de davantage de lui, vous ne manquerez pas de chercher sa volonté pour vous de tout votre cœur et de toutes vos forces. Si vous demandez cela avec humilité, vous ferez l'expérience d'un avant-goût du Dieu glorieux. Si vous aviez cette faim et que vous avez abandonné parce que vous ne trouviez pas la vraie voie, vous pouvez reprendre vos efforts avec succès. Comme la parole du Seigneur au-dedans l'a dit, il donnera racine à ceux qui le cherchent une troisième fois. Si un homme ou une femme obéit totalement à la lumière, il deviendra un enfant de Dieu, un enfant de la lumière. Mais s'il est la lumière parce qu'elle reprend son mode de vie et son comportement égoïste, alors il meurt dans ses péchés. Et lorsqu'un homme meurt en péchant encore, Christ la lumière sort de lui, laissant l'homme dans les ténèbres totales, qui est l'enfer. Alors la mesure de lumière que l'homme avait été donnée à un autre qui, de son vivant, a fait fructifier sa mesure de la vie de Dieu, son talent. Résultat, une destruction éternelle, séparée de la face du Seigneur et loin de la gloire de sa puissance, 2:1-9, l'homme est retranché de la vie, de la puissance et de la gloire de Dieu, demeurant dans les ténèbres totales. De la parole du Seigneur au-dedans, quand la lumière s'en va, vous paniquerez, tous les impies paniqueront. Tant que nous ne perdons pas cette petite part de la vie de Dieu en nous, nous n'avons aucune idée du réconfort et du soutien qu'elle a été pour nous pendant notre vie. Il y a plus d'informations sur ce sujet dans la page web séparée, The Parable of the Talent Explained, ainsi que Is There Hope for All Men and Women. Soit nous augmentons la vie de Dieu en nous jusqu'à être restaurés dans la justice et la sainteté de l'image de Dieu, Christ, nous vivant en Christ, Christ vivant en nous, contrôlant toutes nos paroles et tous nos actes, soit nous perdons notre vie de Dieu. Notre cœur doit d'abord être purifié du mal intérieur qui nous souille. Une fois que nous obtenons la vie de Dieu en plein contrôle de nos paroles et de nos actes, nous avons la vie éternelle, car la vie de Dieu, Christ, est éternelle. La vie éternelle, c'est être une nouvelle créature en Christ sur la terre et pour toujours. Cette vie nouvelle et cette nouvelle créature ne sont pas à imaginer. Comme la parole du Seigneur au-dedans l'a dit, la vie nouvelle est aussi radicalement différente que celle d'un homme qui a vécu toute sa vie sous terre et qui, soudain, remonte à la surface pour voir le soleil, le ciel, les plantes, les animaux, le vent, les étoiles. Si quelqu'un se tient debout avec un cœur nouveau, il est une nouvelle créature. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jer 31, 33 Rejetez loin de vous toutes vos transgressions par lesquelles vous avez transgressé, et faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau et un esprit nouveau. Car pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Ès 18:31 Comment augmentons-nous cette vie de Dieu en nous, afin qu'elle nous gouverne ? Nous cherchons à entendre davantage de ses paroles, car les paroles que nous l'entendons nous dire, paroles auxquelles nous croyons et que nous mettons en pratique, sont esprit et communiquent la vie de Dieu en nous, comme Paul l'a dit. C'est la parole de la foi que nous prêchons, Rome 10:8-17, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit, et elles donnent la vie. Jean 6:63 Les paroles que vous l'entendez vous dire sont sa vie, le pain de la vie de Dieu, votre pain céleste quotidien, des paroles qui sortent de la bouche de Dieu et par lesquelles l'homme doit vivre. Matt 4:4 De la parole du Seigneur au-dedans, « Je suis la lumière du monde, quiconque continue de se nourrir de moi aura la lumière de la vie. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » 2 Cor 3, 6 La lettre, c'est la Bible ou la loi. De la parole du Seigneur au-dedans, c'est l'esprit qui donne la vie, rien d'autre. La chair ne sert de rien, si vous vivez selon la chair, vous mourrez à la vie de Dieu. Jean 6:63, Rome 8:8-13. Lire, assister aux offices, chanter, prier, tout cela ce sont des œuvres de la chair. Lire la Bible édifie votre espérance mais ne vous donne pas la vie. Lire sur le péché et la loi tue notre confiance en nous-mêmes, en identifiant et en attirant l'attention sur nos comportements égoïstes et mauvais, accomplis par des hommes morts à la vie de Dieu. La lecture de la Bible ne peut ni communiquer l'Esprit ni la vie de Dieu. Lire la Bible ne peut pas vous rendre capable d'aimer Dieu de tout votre cœur, ni d'aimer votre prochain comme vous-même, ni vous purifier du péché, seul l'Esprit peut faire tout cela. Les paroles que nous entendons nous être dites sont des révélations de Dieu pour nous, comme il a promis qu'il nous enseignerait toutes choses et nous conduirait dans toute la vérité. Chaque révélation que nous recevons augmente notre foi, ce qui nous motive à passer plus de temps à attendre Dieu afin que l'Esprit nous communique la vie de Dieu, au moyen des paroles que nous entendons nous être dites, puis greffées dans notre cœur. Jacques 1:21. Paul nous dit aussi clairement que nous devons entendre Jésus et être enseignés par Jésus pour parvenir à la vie de Dieu. C'est pourquoi je dis, et je rends témoignage dans le Seigneur, dès maintenant vous ne devez plus marcher comme marchent les autres gentils, dans la vanité de leurs pensées, l'intelligence obscurcie, étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais vous n'avez pas ainsi appris Christ, à supposer que vous l'ayez réellement entendu et que vous ayez été instruit par lui, comme la vérité est en Jésus. F4:17-21 Nous nous asseyons et nous attendons, nous veillons, nous écoutons, nous entendons, puis nous obéissons à ses commandements et gardons ses enseignements. Comme Jésus l'a dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée, elle s'asseoir aux pieds de Jésus et entendre sa parole. Luc 10:39-42 Nous aussi, nous devons nous asseoir aux pieds de Jésus et écouter ses paroles, les paroles qu'il nous dit du dedans de notre cœur, qui sont esprit et qui donnent la vie. Nous aussi, nous devons nous asseoir en silence et attendre le Seigneur, afin d'écouter, d'entendre et d'obéir. De la parole du Seigneur au dedans, tout compte fait, il faut entendre, des oreilles doivent entendre, si ceux qui entendent obéissent, leur progrès sera rapide. J'ouvrirai les portes de la vie à celui qui avance. Tu es mon disciple si tu fais ce que je dis. Écoute ma voix et obéis-y, et je serai ton Dieu. Le salut vient à ceux qui prêtent attention et obéissent. Le salut vient à ceux qui attendent. Attends, expose-toi à ses commandements et écoute. Nous le faisons aussi souvent que possible, afin de faire de la recherche de Dieu la priorité la plus élevée de notre vie, ce que Jésus nous a aussi ordonné de faire. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu 6:33 À propos de la recherche de Dieu, George Fox a écrit « Le Père est en vous tous, Christ est en vous, et le royaume des cieux est en vous, c'est là, dans vos cœurs, que vous les trouverez tous. Sachez-le là, sont dans vos cœurs, et trouvez-le là, éprouvant vos pensées et vos cœurs, inclinez vos oreilles et prêtez l'oreille à celui qui, là rendra à chacun de vous selon vos paroles et vos œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le Seigneur est bon envers ceux qui l'attendent, envers l'âme qui le cherche. Lâme 3:25 Vous le trouverez, si vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. 2:4-29 Et continuez de l'attendre et de lui obéir, c'est demeurer en lui. Si vous demeurez dans ma parole enseignements et commandements entendus, alors vous êtes vraiment mes disciples, et alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8:31-32 Si vous continuez d'attendre, de veiller et d'écouter Jésus, qui est la parole et la lumière au-dedans de votre cœur, vous êtes un vrai disciple, qui produira le fruit de l'Esprit, qui sera conduit dans toute la vérité, et qui sera alors devenu libre de tout péché. Demeurez habité, restez en moi, et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit par lui-même, s'il ne demeure dans le cep, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si un homme demeure en moi, et moi en lui, il porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment, et il sèche, on ramasse ses sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Lorsque vous portez, produisez ou faites naître beaucoup de fruits, mon Père est honoré et glorifié, et vous montrez que vous êtes vraiment mes disciples, vrais disciples. Jean 15:4-8 Et le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, quiétude et confiance assurée pour toujours, la patience y compris la longanimité, la constance et la persévérance, la bonté incluant la moralité et l'intégrité, la bienveillance, la foi, la douceur incluant la mansuétude et l'humilité, et la maîtrise de soi, domination des appétits sensuels, des passions et des désirs. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Galates 5:22-23 Ces sarments sans fruits sont jetés au feu. Lorsque vous avez produit le fruit de l'Esprit, vous marchez dans un amour obéissant, suivant l'impulsion de Dieu, accomplissant la loi. Et la loi, avec tous ses « tu dois » et « tu ne dois pas » ne s'applique plus parce que vous suivez les commandements continus en temps réel de l'Esprit de Dieu, exactement comme Jésus l'a fait sur la terre, manifestant « que ta volonté soit faite ». La réception du fruit de l'esprit n'est pas à imaginer ni à présumer, elle est à vivre. De la parole du Seigneur au-dedans, vous devez produire du fruit, beaucoup de fruits. Les vrais disciples portent du fruit. Jusqu'à ce que tu constates recevoir la foi de Christ, tu es sous la loi. Jusqu'à ce que tu constates la loi accomplie en toi, tu es sous la loi. Il n'y a pas de loi, quand tu es sous le contrôle complet de l'esprit. Tu marches dans l'amour en obéissance selon l'impulsion, tu ne marches pas dans une chair bridée. En attendant Dieu, l'Esprit de Dieu enseigne à l'homme à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre avec sobriété, justice et piété, puis il purifie l'homme du péché. Cette grâce de Dieu nous conduit à la repentance, changement de conduite, laquelle repentance mène à la vie de Dieu. Dieu a aussi accordé aux gentils la repentance pour la vie. Actes 11, 18 Le fruit de l'esprit vient, après que les œuvres de la chair ont été crucifiées sur la croix intérieure, l'esprit détruisant l'immoralité sexuelle, y compris l'adultère et la fornication, l'impureté, la luxure, l'idolâtrie, y compris la convoitise, la sorcellerie, la haine, les querelles, la jalousie, la colère, l'ambition, les divisions, les factions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies, les fêtes, et autres choses semblables. Galates 5, 19-21 Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair, la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs, convoitises et affections. Galates 5, 24 La vie de Dieu, Christ, n'est possédée en pleine mesure que par un cœur qui a été purifié, lavé et nettoyé de tout ce qui le souille. La grâce vous montre à la fois les péchés secrets de votre cœur et ensuite les enlève. Attendre Dieu chaque jour et suivre ses ordres, c'est la croix que le Seigneur nous a dit que chacun devait porter chaque jour pour être son disciple et le suivre, c'est la croix intérieure du renoncement à soi. À mesure que vous crucifiez votre esprit égoïste et mauvais sur la croix intérieure, la vie de Dieu, Jésus, se forme en vous, portant toujours dans notre corps la mort de la croix intérieure du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes constamment livrés à la mort crucifiant le vieil homme à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. 2 Cor 4, 10-11 Mes petits-enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Galates 4, 19 À mesure que vous demeurez en lui, Christ croit, jusqu'à ce qu'enfin vous ayez tant de la vie de Dieu que Christ ressuscite en vous, tout en étant encore sur la terre. Et lorsque nous étions morts dans nos péchés, il nous a rendus à la vie dans l'union et la communion avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et il nous a ressuscités ensemble avec Christ et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens 2, 5, 6 En qui vous aussi vous serez circoncis de la circoncision faite sans main, par le dépouillement du corps des péchés de la chair, par la circoncision opérée par Christ. Ensevelis avec lui dans le baptême, vous serez ressuscités avec lui par votre foi en l'action de Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Col 2, 11, 12 Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé dans le monde son Fils unique engendré, afin que nous vivions par lui. 1 Jean 4, 9 Après avoir été crucifiés et avoir été baptisés de feu dans la mort, nous sommes ressuscités avec le Seigneur, une nouvelle créature, vivant en Jésus et en Dieu, et eux vivant en nous. Et la parole devient chair et demeure en nous, et nous contemplons sa splendeur glorieuse, la splendeur glorieuse du Fils unique engendré du Père, plein de grâce et de vérité. Jean 1, 14 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Col 3 1 Si Christ est la vie de Dieu, et nous devons travailler dans cette vie pour posséder Jésus pleinement, afin qu'il soit notre vrai Seigneur et Maître, gouvernant toutes nos paroles et tous nos actes dans cette vie sur la terre et pour toujours dans la vie à venir. Et si nous ne faisons pas croître Christ en nous afin qu'il devienne notre Seigneur souverain sur toutes nos paroles et tous nos actes, nous perdons complètement la vie de Dieu quand il sort de nous après la mort. Nous devons perdre notre vie charnelle et égoïste pour sauver et accroître la vie de Dieu en nous. Et si nous cherchons à sauver notre vie égoïste et charnelle, en ignorant ses commandements de nous détourner du mal et de persévérer jusqu'à la fin, nous perdrons la vie de Dieu en nous lorsqu'elle sera enlevée en enfer. Toutefois, si nous perdons notre vie charnelle par le baptême de feu et de mort, nous gagnerons la vie de Dieu pour toujours. La mort survient lorsque vous subissez le baptême de feu et de mort. Pour des détails sur la mort dans le baptême de feu et de mort, voir la note de bas de page à Matthieu 3, 11-12. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Matt 16, 25 Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Jean 12, 25 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Marc 8, 35 Celui qui trouve sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Matt 10, 39 Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie la préservera. Luc 17, 33 C'est une parole certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. 2 Tim 2:1 Car celui qui désire sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. Luc 9:24 Si quelqu'un vient à moi et n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, oui, même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, 26 De la parole du Seigneur au-dedans, béni soit l'homme qui est fatigué de lui-même. Tu dois perdre ta vie pour la sauver, tu dois haïr ta vie pour perdre ta vie. Peu seront sauvés à cause de leur amour de la vie. Le sacrifice de la vie a été donné au petit nombre qui perdrait sa vie pour la sauver. Le sacrifice de la vie est un coup du sort. Le sacrifice de la vie est accordé à ceux qui peuvent se le permettre. Tu es le sacrifice. On meurt réellement pour entrer dans le camp. Il vient dans des flammes éternelles. Dieu se révèle à ses vrais serviteurs. Dieu se révèle dans le feu. Par le feu, il fait de ceux qui cherchent véritablement son corps. Tout meurt quand la parole est touchée. Ils ont perdu leur vie parce que je leur ai ôté la vie. On meurt pour voir le Seigneur. Le temps viendra, et c'est maintenant, où les morts entendront le Fils de Dieu et vivront. Tu entendras sa voix quand il t'appellera. Christ ressuscite réellement en chaque personne qui vient à lui et lui obéit de façon répétée. Vous n'avez pas fait l'expérience de la grâce tant que vous n'avez pas été ressuscité avec lui. Par une obéissance persévérante et fidèle, toi aussi tu seras ressuscité. Beaucoup sont venus, beaucoup viendront, beaucoup seront ressuscités. Tu es ressuscité pour une vie nouvelle, pas seulement une imitation, il est un avec nous et toujours présent. Le christianisme laisse les gens vivre dans les convoitises de leur chair, accomplissant les désirs de la chair et des pensées de leur esprit, comme le reste des hommes. Ils sont laissés dans leur nature pécheresse marchant selon la chair, dont le but est de satisfaire les choses de la chair. Dans leur convoitise, désir, affection, plaisir, orgueil, colère, vanité, peur, inquiétude, projet, etc. Ils sont laissés à marcher selon les voies du monde, selon le prince de la puissance de l'air, Satan. Éphésiens 2, 3. Si vous vivez selon la chair, la nature pécheresse, vous mourrez. Romains 8, 13. Par le fait que le christianisme prétend vous sauver dans vos péchés, vous n'avez fait que sauver votre vie charnelle, et vous avez perdu votre chance de trouver la vie supérieure de Dieu. Ainsi, à moins de prendre votre croix pour crucifier votre nature pécheresse, vous mourrez à la vie de Dieu. Il est rapporté que Jésus a dit 3 fois que ceux qu'il ne connaissait pas seraient rejetés. Ce n'est pas quiconque me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Et en ton nom chassé des démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles, alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité et péché, absence de loi ou méchanceté. Matthieu 7:21-23 Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et lorsque le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous vous tiendrez dehors et frapperez à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondra et vous dira, « Je ne vous connais pas ni d'où vous êtes. » Alors vous direz, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. » Mais il dira, « Je vous le dis, je ne vous connais pas ni d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité malfaiteur, qui péchez encore. » Luc 13, 24-27 Ensuite les autres vierges vinrent aussi, disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte pour entrer. » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Matthieu 25, 11-12 De la parole du Seigneur au-dedans, je ne connais que ceux qui ont été crucifiés. Il sait tout, mais le fait de te connaître signifie pour lui devenir un avec toi, ce qui se produit après que tu as été crucifié. À moins d'être purifié par l'Esprit du Seigneur qui détruit le péché en l'homme, le cœur de tout homme commence rempli de mal, rempli de péché, souillé et disqualifié pour le ciel. Tous les hommes souillés sont exclus du ciel. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Marc 7-6 Car du dedans, du cœur des hommes, sortent des pensées mauvaises, adultères, fornications, meurtres, vols, convoitises, méchancetés, tromperies, dérèglements, regards mauvais, blasphèmes, orgueil et folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans de l'homme et le souillent. Marc 7, 21-23 Et il n'y entrera en aucune manière au ciel rien de souillé. Apoc 21, 27 Le Seigneur avertit ceux qui pensent être chrétiens tout en péchant encore. 1. Il ne vous connaît pas, et 2. Il vous jettera dans les ténèbres du dehors, exclu du ciel au jugement. Le salut a lieu lorsque vous êtes un avec Christ et Dieu. Une fois dans l'union, c'est permanent. Après avoir été crucifié et être devenu un avec Jésus et le Père, en union avec eux, alors vous leur appartenez et vous connaissez la voix du Seigneur, qui est comme le tonnerre sur les eaux. La voix du Seigneur, comme le tonnerre sur les eaux, est décrite dans de nombreux passages de l'Ancien Testament. C'est radicalement différent de la petite voix douce et tranquille que nous entendons au-dedans de notre cœur par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et la parole du Seigneur au-dedans parlent avec des paroles venant de Jésus, ainsi nous entendons le Fils de Dieu. Mais tant que nous ne pouvons pas réellement entendre la voix du Seigneur, nous ne saurons pas avec certitude que c'est le Seigneur qui nous parle. De la parole du Seigneur au-dedans, tu auras toujours des doutes jusqu'à ce que tu entendes sa voix. Ma voix est comme le tonnerre sur les eaux, tu entendras sa voix quand il t'appellera. Nous entendrons, pour la première fois, la voix du Seigneur comme le tonnerre sur les eaux après nous être soumis au baptême de feu et de mort, puis être appelés et ressuscités avec lui comme une nouvelle créature. Alors, comme l'indique Jean 10:3-5, nous connaîtrons sa voix, il nous conduira hors du monde vers le royaume, et nous fuirons les autres voies. Quand vous entendez sa voix pour la première fois, vous êtes passé de la mort à la vie, et une fois que vous avez entendu sa voix comme le tonnerre sur les eaux, vous saurez toujours si c'est le Seigneur qui vous parle ou non. Nous devons d'abord écouter le Saint-Esprit et la parole du Seigneur au-dedans, afin d'entendre et d'obéir à ses nombreux enseignements et commandements. Ensuite, avec une longue persévérance et de la patience dans des œuvres obéissantes de repentance, nous faisons l'expérience du baptême de feu et de mort, pour alors entendre la voix du Seigneur en passant de la mort à la vie. Jusque-là, nous devons être sur nos gardes afin de ne pas être trompés par l'ennemi, qui prétend être le Seigneur nous parlant. Selon le conseil d'Edward Burroughs, cliquez pour lire. Un géant des premiers Quakers, tant que nous ne pouvons pas distinguer entre la voix du Seigneur et la voix de l'ennemi, nous ne devrions rien faire pour le Seigneur sinon suivre ses commandements asterisque de nous repentir. Et William Penn a écrit, « Bien qu'il soit du devoir de tous de marcher dans la lumière et de l'attendre, afin qu'elle les instruise dans le chemin de la vie et du salut, ce sont pourtant ceux-là seuls qui sont réellement conduits asterisque par elle, la lumière. » Asterisque, tout commandement de se repentir venant du Seigneur doit être d'abord pur, puis paisible, équitable, doux, facilement accepté, plein de miséricorde et de bons fruits, immédiatement compris et sincère. Jacques 3:17 ** en guise de rappel. Pour être guidé ou conduit par la lumière doit d'abord se lever dans votre cœur comme une étoile magnifique, de sorte qu'on vous montre tout ce qu'il faut faire et qu'on vous dise tout ce qu'il faut dire. Le surgissement indubitable de la lumière vient de la foi dans la voix. Vous pouvez entendre le Seigneur vous dire d'aller de l'avant dans votre réflexion pour acheter quelque chose ou faire quelque chose que vous estimez nécessaire, et pourvu que ce ne soit rien que vous sachiez être mauvais, ou rien qu'il vous ait dit par le passé de ne pas faire, vous pouvez suivre ses suggestions avant de pouvoir distinguer sa voix. Si vous n'avez pas besoin de ce que vous envisagez d'acheter, il peut vous dire clairement « tu n'en as pas besoin ». Si ce n'est pas nécessaire de faire quelque chose que vous envisagez, il peut vous dire « ce n'est pas nécessaire ». Si cela est nécessaire et ou utile, il peut vous encourager à poursuivre. Jésus te connaît lorsqu'il te libère de tout péché, te purifiant, de sorte que tu es alors gouverné par lui dans chaque parole et chaque acte, devenant quelqu'un qui suit dans l'obéissance l'agneau partout où il va quoi qu'il commande. Apoc 14:4. Vous ne pouvez être délivré de l'esclavage du péché qu'en entendant ces paroles qui vous sont adressées, qui sont esprit et qui donnent la vie, puis en obéissant aux commandements que vous avez entendus. Vous voyez combien il est important d'écouter et d'entendre la parole du Seigneur en vous. Par la persévérance à écouter l'Esprit, il vous enseignera à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre sobrement, justement et pieusement dans le présent siècle, nous rachetant de toute iniquité actes sans loi, péché, et se purifiant un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2:11-14 Lorsque nous entrons en union avec Christ et le Père, alors que Jésus ressuscite en nous pour former une créature entièrement nouvelle, toutes les choses anciennes étant passées, nous sommes transportés dans le royaume de Dieu, et alors nous mangeons de l'arbre de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Apoc 2:7 Puis il me montra le fleuve pur de l'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau, coulant au milieu de sa rue. Et de part et d'autre du fleuve se trouvait l'arbre de vie, portant 12 fruits, donnant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Apoc 22:1 de William Deuce puis un quick des débuts demeurant dans le royaume, écrit en 1655 ainsi, par la loi juste de l'Esprit de vie en Christ Jésus, j'ai été je suis rendu libre du corps du péché et de la mort, et par ces grandes tribulations mes vêtements sont lavés et rendus blancs dans le sang de l'agneau, qui m'a conduit dans la nouvelle Jérusalem, où nul n'entre qui commet l'abomination ou dit un mensonge, mais seulement ce dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ici mon âme se nourrit maintenant de l'arbre de vie, après lequel j'avais si longtemps eu faim et soif, et qui se tient dans le paradis de Dieu. Ici il n'y a plus ni malédiction ni nuit, mais le Seigneur Dieu et l'agneau sont ma lumière et ma vie au siècle des siècles. Et je témoigne que je suis régénéré et né de nouveau de la semence immortelle, et qu'ayant part à la première résurrection, la seconde mort n'a aucun pouvoir sur de telles. Nous aurons aussi la lumière de la vie, de sorte que nous voyons clairement ce que Dieu voudrait que nous fassions et disions, parlant et agissant toujours avec une vertu parfaite, Puis Jésus leur parla de nouveau, disant, « Je suis la lumière du monde de tout homme. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. La lumière est la preuve de la vie de Dieu. Avec la vie de Dieu possédée en pleine mesure, votre vie consiste maintenant à aider Dieu à façonner la création selon sa volonté parfaite et aimante. Vous êtes désormais capable d'accomplir des œuvres pour Dieu qui l'honorent, le glorifient et lui font plaisir. Lui qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, acte sans loi, péché, et de se purifier un peuple qui lui appartienne en propre, zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2, 14. Car nous sommes son ouvrage, créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles en faisant de bonnes œuvres. Éph 2 dit que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, ce grand berger des brebis, par le sang de l'Alliance éternelle, vous rende parfait en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, opérant en vous ce qui est agréable à ses yeux, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Hébreux 13, 20-21 afin que vous marchiez d'une manière digne du Seigneur, lui plaisant en toutes choses, portant du fruit en toute bonne œuvre. Colin dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Matt 5, 16 Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme ayant été produites, formées et rendues possibles par Dieu. Jean 3, 21 Car c'est Dieu qui produit en vous, et le vouloir d'œuvrer et l'œuvre, selon ses commandements, selon son bon plaisir. Phil 2, 13 Ses œuvres, faites dans la vie de Dieu, sont pour le plaisir de votre Créateur et pour votre joie ultime. Suivre les directives continuelles du Seigneur dans une foi obéissante est profondément satisfaisant, parce que vous savez que chaque parole que vous prononcez et chaque action que vous accomplissez est parfaitement vertueux et irréprochable, démontrant la puissance et l'amour de Dieu à tous. Tu me feras connaître le sentier de la vie, devant ta face, il y a plénitude de joie, à ta droite, des délices éternels. Psaume 16, 11 qu'il nous accorde, délivré de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte dans la sainteté et la justice devant lui, tous les jours de notre vie. Luc 1, 74-75 L'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, 18 Quand vous êtes dans la vie de Dieu, vous êtes en Christ parce que Christ est la vie. Jean et Paul expliquent qui est en Christ. Celui qui obéit à ses paroles prononcées obéit au commandement que le Seigneur lui adresse en lui véritablement. L'amour de Dieu est rendu parfait, c'est à cela que nous savons que nous sommes en lui. 1 Jean 2, 5 Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est rendu parfait en nous. 1 Jean 4, 12 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Rome 8, 1 Si vous marchez selon les impulsions de la chair, marchant selon votre propre pensée charnelle, vous n'êtes pas en Christ Jésus. Ainsi donc, ceux qui sont dans la chair vivant dans leur nature pécheresse ne peuvent plaire à Dieu. Rome 8, 8 Ainsi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Cor 5, 17 Le monde passe et disparaît, avec ses désirs et ses convoitises. 1 Jean 2, 17 Elles sont écrites pour notre avertissement, nous sur qui les fins du monde sont au passé arrivées. 1 Cor 10, 11 Quand vous êtes transportés dans le royaume des cieux, comme Paul et d'autres l'ont été, votre regard et votre conscience ne sont plus dans la dimension de ce monde physique. L'apôtre Paul nous aide à comprendre le royaume de Dieu au-dedans et au milieu de nous, écrivant dans le livre des Actes de la Bible, « Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être » Actes 17, 27-28, mais nous n'en sommes pas conscients, parce que nous sommes dans une dimension physique inférieure. La dimension physique partage le même espace que les dimensions spirituelles supérieures, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tout. Éph 4, 6 Entrer dans le royaume de Dieu au-dedans et autour de nous, c'est être radicalement transporté dans la dimension spirituelle de la conscience et du regard, en union avec Christ et Dieu, tout en marchant sur la terre par la lumière de Dieu, marchant sur la terre avec les yeux de Dieu. Le monde disparaît de notre vue lorsque le royaume est entré. Paul a dit, « Nous ne marchons plus par la vue, mais par une foi obéissante, selon que l'Esprit de Dieu nous pousse et nous conduit. » Jésus a demandé au Père de ne pas retirer ses disciples du monde, mais il voulait qu'il soit avec lui, pour voir sa gloire. Ainsi nous marchons sur la terre, mais notre regard est dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est avoir justice, paix et joie, et cette paix venant du Dieu de paix, est quiétude et confiance assurée, assurance indiscutable pour toujours. Rome 14, 17, Isa 32, 17 Si vous n'avez pas encore lu la Bible en ligne de ce site sur Jean 14 et Jean 17 avec les commentaires et notes de bas de page qui montrent clairement les promesses oubliées de l'union avec Dieu, assurez-vous de le faire. Pour des directives sur la manière d'attendre Dieu, et sur ce à quoi s'attendre dans votre parcours d'accroissement de la foi, lisez comment bénéficier de la puissance transformatrice de Dieu en attendant le Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est là votre service spirituel et votre culte. Rome 12, 1. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.